Cours de philosophie politique par le père Samuel à Saint-Jaudard, le 19 décembre 1992.
Alors je vais vous lire des petits passages de Rousseau. Vous avez déjà dû lire en terminale, mais dans la lumière de ce qu'on a dit, ça peut être plus intéressant de leur entendre. Alors sur la volonté générale, la volonté générale peut seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution qui est le bien commun. Donc vous allez voir que Rousseau parle du bien commun, tout le monde parle du bien commun. La question c'est pas de savoir, c'est pas d'en parler, c'est de savoir quel rôle il a. Donc la volonté générale peut seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution qui est le bien commun. Ce qui généralise la volonté est moins le nombre de voix que l'intérêt commun qui les unit. Donc vous voyez, on est passé du bien commun à l'intérêt commun, ce qui peut tout à fait la même chose. Vous avez la volonté générale qui dirige les forces de l'État. Tous les mots comptent. Selon la fin de l'institution, quel bien commun. Vous voyez que la fin de l'institution qui est le bien commun régule la manière dont la volonté générale dirige. Vous voyez, donc la causalité finale est relative à la cause efficiente. C'est tout simple. Donc l'important, c'est que la volonté générale dirige les forces de l'État selon, vous voyez, quand le père dit que la cause finale devient métaphorique, c'est-à-dire que la cause finale, c'est le bien commun, si vous voulez, c'est qu'au fond, c'est l'intention selon laquelle on dirige. Mais ce n'est pas la cause de la direction et de l'action. Donc ce qui généralise la volonté, donc ce qui rend la volonté générale, est moins le nombre de voix que l'intérêt commun qui les unit. Donc la volonté générale, elle est volonté générale par l'intérêt commun. L'intérêt commun, ça fait référence à l'aspect subjectif. Hein. L'intérêt, c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'effectivement, Rousseau s'aperçoit bien que pour convertir l'individualisme, vous voyez, en communauté unie, il faut que l'individu soit intéressé. Oui, je dis, il faut qu'il y retrouve son compte. C'est un des grands soucis de Rousseau. Il faut y retrouver son compte. Il faut être réaliste en politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer aux gens un idéal qui ne les intéresse pas de manière particulière. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite? Et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux? Si ce n'est, vous voyez, pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux? Si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot. Chacun. Et qui ne songe à lui-même en votant pour tous. Vous voyez, c'est ça, il fait sauter l'individualisme, c'est-à-dire que c'est par le bien de tous qu'on rejoint le bien de chacun. La volonté générale, pour être vraiment telle, doit l'être dans son objet ainsi que dans son essence. Elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous. Vous voyez, j'allais d'une certaine manière, c'est un communisme absolu que propose Rousseau. C'est-à-dire que l'individu réalise son bien personnel à partir du moment où son seul souci, c'est le bien commun. Là, vous voyez que les catégories qu'utilise Rousseau, c'est le bien particulier, l'intérêt particulier et le bien commun, ou l'intérêt commun. Je voulais un autre passage. Voilà, c'est pour vous montrer que comment est-ce que il y a une permutation de la volonté, c'est-à-dire qu'au fond, en adoptant le bien commun, on finit par adopter son bien propre. La situation des individus se trouve réellement préférable à ce qu'elle était auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation, ils n'ont fait qu'un échange avantageux.
d'une manière d'être incertaine et précaire, là où ils étaient chacun seuls contre les autres, contre une autre meilleure et plus sûre, de l'indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, de leur force que d'autres pouvaient surmonter contre un droit que l'union sociale rend invincible. Leur vie même qu'ils ont dévouée à l'État en est continuellement protégée, et lorsqu'il expose pour sa défense, que font-ils alors que lui rendre ce qu'ils ont reçu de lui ? Que font-ils qu'ils ne fissent plus fréquemment et avec plus de danger dans l'état de nature ? Tous ont à combattre au besoin pour la patrie, il est vrai, mais ainsi nul n'a jamais à combattre pour soi. Alors après ça, il explique comment est-ce que la volonté générale est toujours droite. Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation ? De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale, parce que vous voyez donc, au fond, le contrat social est ce qui permet à l'homme d'exercer la bonté naturelle qui est la sienne. Vous voyez ? Puisque le système social qui n'est pas le contrat social, quand il n'est pas le contrat social, vient corrompre le désir du bien qui est naturel chez l'homme. En fait, le contrat social est le seul moyen qui permet au désir de l'homme de s'exercer pleinement. Donc ce qui fait que l'exercice du contrat social implique de facto la bonne volonté. Puisqu'il est le moyen par lequel, logique, j'allais dire législatif, par lequel chacun peut enfin exercer ce pour quoi il est fait. Donc la volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Ça, c'est le rôle, on va le voir, du législateur. Premier élément, le rôle du législateur, c'est de révéler à la communauté. Vous voyez, ça n'est pas, j'allais dire, d'obliger l'individu à agir selon le bien. C'est de révéler à la communauté quel est son bien. Parce que la volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Donc le législateur a essentiellement une fonction de révélateur du côté de la connaissance. Le législateur n'est pas un éducateur, ou si vous voulez, l'éducation vue par Rousseau est de mode socratique. C'est-à-dire qu'au fond, si on est mauvais, c'est parce qu'on est ignorant. C'est le manque de connaissance qui fait l'ignorance, qui fait le mal. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulières. Balancer l'attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent, le public veut le bien qu'ils ne voient pas. Tous ont également besoin de guides. Donc c'est le rôle du législateur. Alors ensuite, le deuxième élément qui constitue le fonctionnement juridique de la communauté politique chez Rousseau, c'est le souverain. Le souverain qui est nécessairement un être exceptionnel et qui, d'une certaine manière, est l'incarnation de la volonté commune. Alors, la volonté commune, ce n'est pas le souverain. Mais le souverain, il est celui qui applique, vous voyez, qui permet l'exercice de la volonté commune. Donc le souverain, ce n'est pas le législateur. Le souverain, il est du côté du pouvoir. Et le souverain, la souveraineté que possède le souverain de manière éminente, est inaliénable et indivisible. Donc si vous voulez, c'est ça l'astuce de Rousseau, la volonté particulière, c'est pas l'addition des volontés, la volonté générale, c'est pas l'addition des volontés particulières, puisque c'est le renoncement des volontés particulières. Et le propre du souverain, c'est que précisément, il est capable d'exercer le pouvoir d'une manière qui convient à la volonté générale. Ce qui veut dire que normalement, il a éminemment renoncé à sa volonté particulière. C'est pour ça que le souverain, je dis, c'est la dimension visible de la volonté générale. C'est l'incarnation de la volonté générale. Ce n'est pas une union hypostatique, hein, mais c'est comme l'Esprit Saint, si vous voulez, et c'est un peu comme l'Esprit Saint et l'infaillibilité pontificale, ou l'Esprit Saint et le corps du Christ. Le rapport est plus proche du lien entre l'Esprit Saint et le corps du Christ qu'entre le Verbe de Dieu et l'humanité de Jésus. Mais ça veut dire que le souverain, si vous voulez, il est l'incarnation. Alors, qu'il soit, encore une fois, qu'on soit, et ça c'est très étonnant que, encore une fois, parce que c'est, Rousseau n'est que la voix, j'allais dire, laïque d'une théologie qui marque le temps dans lequel il est, que ça soit le roi soleil ou que ça soit le président de la République, il est l'incarnation de la souveraineté nationale. Il n'est pas simplement celui qui est gardien de l'exercice, de l'unité de la communauté et de son exercice en vue du bien commun, vous voyez. La notion de souveraineté, elle est très intéressante. Parce que la souveraineté, elle s'est développée à partir de la notion de sacerdoce royal. Vous voyez, la souveraineté, d'une certaine manière, c'est l'exercice d'une... C'est, le pouvoir, c'est différent de la souveraineté. Qu'est-ce qu'il fait, vous voyez, le souverain, c'est la dimension du pouvoir transcendant. La souveraineté, c'est le pouvoir transcendant. Or, Aristote précisément expliqué qu'il n'y a pas de pouvoir transcendant en politique, tout est immanent. Mais là, le contrat social permet de faire apparaître, vous voyez, un pouvoir transcendant. C'est ça qui est très bizarre. C'est très particulier. Donc, par le renoncement, la volonté générale, c'est quelque chose qui transcende, vous voyez, les individus. On est d'accord, ça dépasse les individus. Ça dépasse, et le souverain, il est celui qui est le signe visible, il est l'incarnation de cette transcendance, et c'est ça sa souveraineté. Et donc l'autorité du souverain, elle a quelque chose de transcendant. Pas dans sa personne, mais parce que précisément, il est l'incarnation, il est celui qui exerce, pour être très précis, il est celui qui exerce la volonté générale. C'est là-dessus, il y aurait des rapprochements très intéressants à faire sur la manière dont s'exerce aujourd'hui la présidence de la République, vous voyez, et la royauté de Louis XIV. C'est la même vision des choses. Il est l'incarnation de la volonté générale. Et d'ailleurs, le caractère, je vous disais, cette souveraineté, elle est inaliénable et indivisible. Ça, c'est parce que, présentement, elle est transcendante. Vous voyez ? La souveraineté, donc la volonté générale, encore une fois, ce n'est pas le fruit de l'addition des volontés particulières. Vous voyez, je pense à cette... Vous voyez, regardez les rapprochements qu'il y a à faire entre un vote et un concile. Dans un concile, on considère qu'une fois qu'on a voté les décrets, le fruit, c'est la volonté de l'Esprit-Saint. Vous voyez, là, il y a une souveraineté du texte. Mais c'est grave quand, du côté politique, on considère qu'une fois que le choix politique a été fait, il est transcendant. Il n'est pas du tout transcendant. Je veux dire, l'adhésion de la France au traité de Maastricht, ce n'est pas transcendant. Ce n'est pas souverain, au sens, vous voyez, c'est légitime, c'est légal, mais ce n'est pas souverain. La décision n'a pas à être acceptée par la nation comme si elle était souveraine. Vous voyez, c'est cette espèce de... J'allais dire, bon, c'est pas le suffrage universel, mais la manière dont est vécu le suffrage universel. Comme une espèce de miracle, vous voyez. Comme si l'addition des voix particulières allait donner une volonté transcendante. C'est très étonnant, ça. C'est parfaitement vrai quand il s'agit d'élire un pape ou un concile. Ah, tout à fait.
Ceux qui n'ont pas voté pour lui,
tout à fait.
Tout à fait. Voté pour lui.
Oui, tout à fait. Alors, si tu veux, c'est juste d'accepter son statut, c'est-à-dire le caractère légal de l'élection. Donc d'accepter son rôle légal. Mais ce n'est pas la même chose que d'accepter sa souveraineté. Tu vois, j'allais dire, il est l'exécutif de décisions qui se prennent de manière, par un consensus. Mais c'est autre chose que de considérer qu'il est souverain. Dire qu'il est souverain, c'est qu'au fond, il est l'incarnation d'une volonté générale cachée. dont la majorité est le signe visible. C'est très bizarre, vous voyez, comme manière de penser les choses. Ce qui est vrai dans l'Église. Le sensus fidei, c'est ça. Mais vous voyez, on ne se débarrasse pas comme ça. Vous voyez, j'allais d'une vie en Église, pendant 1500 ans, on ne s'en débarrasse pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on n'accueille pas l'autorité selon son mode purement laïque, j'allais dire selon un regard philosophique, quand au fond, on l'a accueilli pendant des siècles selon un mode religieux. Alors, est-ce que c'était juste ou pas? Ça, c'est une autre question. Hein. Je ne la tranche pas là. Ça, c'est la question dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en théologie, de savoir est-ce qu'au fond, un pays chrétien doit avoir un roi, par exemple. C'est une bonne question de philosophie politique, ça. De théologie politique. Ou de théologie de l'économie divine, pour être plus exact. Alors, le deuxième élément, c'est le gouvernement, parce qu'évidemment, il n'y a quand même pas qu'un souverain. Et le gouvernement, c'est celui, évidemment, dont Rousseau se méfie le plus. Parce qu'évidemment, c'est celui qui est entre le souverain et la nation. Et lui, il est l'organe, le gouvernement. Il est l'organe d'exécution. Et alors, ce qui est garant de tout ça, c'est la religion civile. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est que c'est clair que bon, il y a un acte de foi dans l'efficacité du contrat social. Tout repose sur l'acte de foi dans l'efficacité du contrat social. Ça, c'est clair. Et donc, j'allais dire, il faut qu'au fond, le contrat social soit justifié de manière transcendante. C'est le rôle de la religion civile. Alors là, Rousseau est très net. Il dit, la religion civile, c'est pas le christianisme, parce que le christianisme, ça fait planer dans les nuages. Ça vous fait attendre la gloire et vivre dans le ciel. La politique, ça se passe sur terre. Machiavel fera exactement la même remarque. Donc c'est très gênant le christianisme au niveau politique. Le christianisme, c'est très bien du côté privé le christianisme. Vous voyez, j'ai dit pour la vie intérieure affective. Mais au niveau politique, il faut une religion civile. Alors, une des clauses de la religion civile, c'est que elle établit, je vais vous lire le. Qui est le dernier élément clé. Donc vous avez le souverain. Le souverain. Le gouvernement et l'organe, le législateur qui est du côté de l'intelligence, il est là, c'est lui qui veille que ça soit selon la fin de l'institution. Il est garant du côté de l'intelligence, le législateur. Et puis vous avez la religion, qui est garant de la transcendance. Alors, la religion civile, elle a comme fonction, voilà. Il donne les dogmes positifs de la religion. L'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois. Dogme négatif, un seul, l'intolérance. Alors l'intolérance, c'est le catholique, hein, ça voit. Donc vous voyez, c'est très intéressant qu'on revoit là aussi une tentative chez Rousseau. Et de la même manière chez Machiavel, si vous voulez, il voit bien que la religion, ça peut servir en politique. Mais que pas selon son mode chrétien habituel. C'est-à-dire qu'il faut, oui, au fond, il faut une religion civile. Donc j'allais dire, d'une certaine manière, Rousseau, et on va revoir Machiavel à sa manière, eux seraient tout à fait favorables, j'allais dire, face à Socrate ou à Aristote, de la religion civile. Si au fond, elle permet de cautionner intelligemment le pouvoir du contrat social. Et si en plus, elle assure. J'allais dire, alors il adopte quand même les bienfaits personnels, c'est la vie à venir, enfin, un certain nombre de choses qui sont quand même qui font partie du lot commun de la religion. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de... On pourrait développer, hein, d'abord, ce qui pourrait développer, c'est de voir comment est-ce que ça a été mis en œuvre après ça. Comment est-ce que c'est vrai? C'était Saint-Just qui avait le contrat... C'est Robespierre qui avait le contrat social sous le bras, non? Au moment de la Révolution, ça a fait partie des textes, j'allais dire, qui ont animé. Alors, j'allais dire, je crois, il y a toute une discussion, c'est de savoir est-ce que Rousseau était un révolutionnaire ou est-ce qu'au fond c'était une justification de l'État monarchique. On discutera à l'infini. Je crois que Rousseau, c'est d'abord un penseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense la manière de fonctionner les choses du côté politique et qui la propose. Ensuite, les incarnations du rousseauisme, elles peuvent avoir de multiples formes. Parce que la question en politique, j'allais dire, c'est pas tellement les éléments du régime politique, c'est la manière dont ils sont mis en œuvre. Les éléments, ils existent presque toujours les mêmes. Ce qu'avait très bien compris Aristote. Il dit, il y a une bonne démocratie, une mauvaise démocratie. Il y a une bonne royauté, une mauvaise royauté. Il y a une bonne aristocratie, une mauvaise aristocratie. Le pouvoir, c'est pas qu'il soit aux mains de un, de plusieurs ou de tous, qui est un gouvernement, un parlement, un souverain ou pas. La question, c'est comment ils sont mis en œuvre. Oui. Alors, à mon avis, l'intérêt, encore une fois, de Occam à Rousseau, et là on est renvoyé à ce que déjà Aristote et Platon avaient regardé, on voit que le problème central de la politique, c'est l'unité. Hein, et que la colère, François vous en a peut-être parlé, la colère d'Aristote contre Platon, au point que les commentateurs disent que ça n'est pas de lui, c'est précisément cette espèce de divinisation de l'unité chez Platon. Au point qu'il voudrait instaurer la communauté des femmes et des enfants. La colère d'Aristote, elle est là-dessus. La plus violente critique d'Aristote sur Platon, c'est son obsession de l'unité. Pour Aristote, ça n'est pas l'unité qui est la clé du politique. Parce que Aristote travaille sur l'expérience politique. Et j'allais dire, il fait confiance. C'est très fondamental. Hein. Aristote fait confiance au réel. C'est le réel de l'homme auquel est confiée la politique. C'est pas la pensée politique qui est gardien du politique. C'est la philosophie réaliste, d'une certaine manière, qui est gardien de la politique, précisément parce qu'elle n'est pas une philosophie qui est du côté de la pensée, mais qui est une philosophie qui est du côté du réel. C'est pour ça que l'éducation platonicienne et l'éducation aristotélicienne, elles sont, même s'il y a des moyens analogues, radicalement autres. Parce qu'il y en a une qui est une éducation à la contemplation idéale, c'est-à-dire il faut bien former les esprits à avoir une bonne vision de la communauté politique, alors que de l'autre, elle est une éducation au réel. Qui n'est pas du tout la même chose. À partir de Occam, on est de toute façon, sauf on va voir chez des penseurs plus contemporains, et on va voir Machiavel, enfin plus exactement. Machiavel va être le premier à réagir violemment contre cette pensée idéale, si vous voulez. Mais le souci de Rousseau comme d'Occam, c'est de penser de manière cohérente un système politique. Et le second problème, on le voit très fortement, c'est que il y a son mis en jeu le problème du lien entre le pouvoir et la vérité. Ce que montrait M. de Murat, le fondement, c'est quel est le lien entre la volonté et l'intelligence. Entre la volonté, le bien et l'intelligence. Vous voyez ? Quel est le lien entre le pouvoir, la volonté et le pouvoir, la volonté et le bien, et puis l'intelligence là-dedans. Et donc, du coup, si la vérité intervient, quel est le rôle de la religion? Vous voyez, pourquoi est-ce que la religion... On voit bien que la religion, là, elle sert à cautionner la vérité. C'est la clé du système. Vous voyez, c'est ce qui justifie de manière divine ce qu'on pense. Alors là, j'allais dire, il n'est même pas platonicien, parce que pour Platon, c'est Dieu n'était pas, vous voyez, une clé d'explication. C'était pas, la religion n'était pas un moyen de justification. Platon, il avait quand même Socrate derrière lui, donc il savait ce que ça donnait, la justification par la religion. Mais chez Rousseau, j'allais dire, lui, il est en terre chrétienne, hein, donc il y a quand même une confiance de fond dans la dimension religieuse, même s'il y a une méfiance à l'égard du catholicisme. On voit bien que, vous voyez, il y a une espèce d'ambivalence sur l'usage de la religion. Et là encore, il y aura que Hegel, j'allais dire, pour penser tout ça d'une manière parfaitement synthétique. Et pour réconcilier définitivement la dimension politique, la dimension communautaire et personnelle, comme la dimension religieuse et politique. Et un peu, enfin on le reverra, un peu à la manière d'Aristote. Parce que c'est la philosophie hegelienne qui est gardien du lien entre la politique et l'État, entre la religion et l'État. Alors, du côté de Machiavel, Machiavel, on est dans un tout autre monde. Machiavel donc a écrit deux ouvrages, l'un qui est Le Prince, que tout le monde connaît, et l'autre qui sont les discours sur Tite-Live, qui sont une réflexion sur sur l'histoire des régimes politiques. À partir des régimes politiques antiques, romains. Il faudrait, je ne l'ai pas fait, s'il y en a un de vous qui s'intéresse de faire, il faudrait lire en parallèle le Prince de Machiavel et puis le livre de Saint Thomas, le petit opuscule de Saint Thomas, sur le royaume des régiminés. Parce que dans les deux cas, il s'agit de conseils à un prince. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même optique. Machiavel, il n'est pas dans la même situation politique que Saint Thomas. Saint Thomas, parce qu'il est religieux. Et Machiavel, j'allais dire, lui, est dans une situation politique extrêmement complexe qui est celle des guerres entre les villes italiennes et les principautés italiennes. Et le souci, j'allais dire, l'optique fondamentale de Machiavel, c'est le pragmatisme. Machiavel n'est pas d'abord du côté de la pensée. Il est un farouche, j'allais dire, opposant d'une philosophie politique qui est d'abord du côté de la pensée. C'est un pragmatique. La question, c'est de savoir comment on gouverne. C'est pas de savoir pourquoi. Il refuse pas qu'on réfléchisse sur le pourquoi. Mais c'est comment on gouverne. C'est l'art du gouvernement. C'est même, pour être plus précis, j'allais dire en philosophie, c'est la virtuosité. Vous voyez, au fond, c'est un virtuose de la technique du gouvernement. C'est un artiste, c'est-à-dire que, j'allais dire, au fond, face à la matière devant laquelle, on va le voir, c'est exactement ça, face à la matière devant laquelle il se trouve, on va voir qu'est la nature humaine telle qu'elle est, telle qu'il considère qu'elle est et telle qu'il considère qu'elle fonctionne, comment réussir à la gouverner. Alors, en sachant, et ça fait partie, j'allais dire, d'un arrière-fond que Machiavel ne développe pas, qu'à partir du moment où elle est bien gouvernée, ça contribue au bien de chacun. Ça, c'est clair. Il ne faut pas non plus faire de Machiavel, vous voyez, un machiavéliste au sens de quelqu'un qui ne cherche que le pouvoir pour lui-même. C'est pas ça. Mais le fond de Machiavel, c'est quand même un pessimisme ou une lucidité au choix sur la nature humaine qui est extrêmement profond. J'allais dire, ce qui anime profondément l'homme, c'est l'individualisme et la violence. Et c'est pas la bêtise, si vous voulez, mais c'est l'opinion. Hein. La vision que Machiavel a, c'est une vision de la nature humaine vue à travers une observation du politique. Pour Machiavel, l'homme, il est fondamentalement violent, soumis en partie à l'opinion, mais l'opinion, c'est pas n'importe quoi. Parce que d'une certaine manière, cette violence et cette opinion sont régulés par un intérêt personnel, pour le coup, un intérêt particulier. On ne parle pas d'individualisme. Mais vous voyez, ce n'est pas une violence idéologique. Ce n'est pas non plus une opinion qui accepte n'importe quoi. Vous voyez, il y a un bon sens fondamental, c'est le souci de son bien personnel. Et ça, j'allais dire, pour Machiavel, l'égoïsme fondamental de l'homme, il est bon, parce que c'est ça qui l'empêche de sombrer dans l'idéologie, si vous voulez. Donc c'est ça qui régule fondamentalement, vous voyez, le bon sens du peuple. Évidemment, il n'a pas eu à s'affronter, vous voyez, à des peuples, j'allais dire, idéologisés. Hein. Il travaille sur les Italiens. Et donc il y a un bon sens fondamental. Mais il y a aussi des passions et de la violence qu'il faut réguler. Il faut la réguler, cette violence. Il faut apprendre à s'en servir. Il ne faut pas prétendre la supprimer. Alors, Machiavel ne dit pas qu'on ne peut pas la supprimer au niveau personnel, mais il dit qu'il ne faut pas rêver au niveau politique, il faut être bien face à la réalité de la violence, qui est toujours présente dans la communauté. Et puis, toujours avoir à l'esprit l'importance de l'opinion et donc de l'image, de ce qui apparaît, mais de l'apparence. Machiavel ne prétend pas faire une anthropologie, il dit, au niveau politique, l'apparence, ça joue un rôle fondamental. Vous pouvez faire semblant d'être bon et être complètement véreux. Si vous faites bien semblant d'être bon, vous gouvernerez bien. Enfin, ça jouera un rôle positif. Alors que vous pouvez être quelqu'un qui est extrêmement bon et qui gouverne bien, si vous avez l'apparence de quelqu'un de véreux, ça ne marchera pas. Vous voyez, j'ai dit, il est réaliste. Hein. Et puis l'intérêt particulier, c'est de dire, il ne faut pas rêver que vous allez donner votre vie pour la nation. Ça, c'est du pipeau. Si vous avez un intérêt personnel, vous serez capable de servir le pays. Mais il faut que l'intérêt personnel, vous voyez, il soit gratifié en fonction du service que vous rendez. Donc c'est le troisième élément. Et la finalité du politique, c'est d'obtenir des résultats. C'est de gérer ça, vous voyez. Alors, on pourrait dire, nous, vous voyez, d'une certaine manière, l'opinion est plus du côté de la connaissance, vous voyez. Et l'autre est plus du côté de la volonté, des passions. Donc la volonté, elle est quand même soumise aux passions. La connaissance, elle est soumise à l'opinion. Mais il y a fondamentalement un intérêt particulier. C'est-à-dire la réalité, c'est presque ça. Il y a une espèce de réalisme de fond qui vient réguler le reste. Fait que la passion, on s'aperçoit quand même qu'il ne faut pas qu'elle soit excessive, parce que sinon, on finit par mourir à force de boire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est une espèce de manière moyenne. Force de boire, c'est pas grave, mais globalement, le peuple se conduit de manière pas excessivement désordonnée. Sauf s'il est mal gouverné. Or, précisément, le but, vous voyez, j'allais dire, du prince, c'est pas du tout d'être l'incarnation de la volonté générale, mais c'est d'une certaine manière de comprendre la matière sur laquelle il travaille. Et de la servir en se servant aussi. Je ne peux pas non plus rêver. Donc pas de faux idéalisme, vous voyez, pas de fausse, mais un peu de pragmatisme, c'est-à-dire au fond de j'allais dire le prince faisant lui-même partie des hommes, il vit selon les mêmes critères. La seule chose, c'est qu'il a un peu plus de virtus. Alors le prince, c'est celui qui a plus de virtus que les autres. Alors la virtus, c'est à la fois du courage. Pas la virtus, hein. C'est à la fois du courage, de la force, et j'allais dire de l'intuition politique. C'est un mélange des trois. C'est de l'audace, si vous voulez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue bien. C'est un bon joueur. Il faut de l'audace, il faut être rusé, et puis il faut un minimum de courage dans l'épreuve pour persévérer. Et notamment, ce que le prince va devoir exercer sa virtue à l'égard de cette matière, du peuple. Puis on va voir, ça se complique parce qu'il n'est pas directement seul face au peuple. Mais aussi en se servant de ce que Machiavel appelle la fortuna. Alors ça, c'est très bizarre. Ça.
Je vous dis, Machiavel, c'est quelqu'un qui... Donc il voit bien qu'il y a de l'indétermination dans le réel. Comme il y a de l'indétermination dans les accidents, dans les phénomènes cataclysmiques au niveau naturel, il y a aussi de l'indétermination dans les événements entre les hommes et politiques. Et donc, je ne sais pas trop quoi, tout d'un coup, vous avez la moitié de votre ville qui meurt de la peste. Il faut savoir s'en servir. Si vous vous laissez accabler par ça, vous voyez, la fortuna, c'est pas du bien ou du mal, vous voyez, c'est au fond, c'est l'aveugle, vous voyez, c'est l'équivalent de la providence, mais du côté, de manière immanente, vous voyez. C'est au fond la destinée aveugle des choses. C'est le fait qu'il y a un élément d'indétermination qui joue tout le temps. Une fois c'est pour le bien, une fois c'est pour le mal. Trois fois c'est pour le mal, une fois c'est pour le bien, 10 fois c'est pour le bien, 5 fois c'est pour le mal. Vous voyez, donc il y a toujours quelque chose qui joue et dont il faut savoir tenir compte. Et le prince est celui qui sait se servir de ça aussi. Et qui sait saisir au vol l'occasion. Et qui sait servir de tout, qui se démonte devant rien. Alors, il faut tous ces éléments-là, c'est-à-dire que si vous avez vous pouvez avoir du courage, si vous n'avez pas le sens de la fortuna, alors vous pouvez aussi, alors c'est la situation limite où le prince lui-même, il est objet de la fortuna, c'est-à-dire qu'il y a aussi la situation où la fortuna est telle que personne n'arrive à l'utiliser. Ça, Machiavel l'admet. Dans les cas de Tite-Live, il étudie des cas où effectivement, ils avaient beau avoir. La fortuna était telle qu'ils ont été complètement rasés. je sais pas, être quoi, vous pouvez être génial avec voir de la virtue et tout, puis il y a une avalanche, il n'y a plus personne, toute votre armée de généraux et de gens qui dirigeaient la ville sont supprimés. Vous n'en pouvez rien. Et donc, vous voyez bien, c'est ça qui est très intéressant, Machiavel, il réfléchit de manière négative, c'est-à-dire ce qu'il cherche, c'est les conditions sine qua non, c'est pour ça qu'il est complètement du côté du conditionnement. Quelles sont les conditions sine qua non de l'exercice politique? Quelles sont les situations limites qu'il faut éviter? Alors, vous voyez, c'est vraiment l'intelligence du virtuose. Donc la condition sine qua non, c'est que l'opinion il soit ni excessif dans un sens, ni excessif dans l'autre. Que l'intérêt particulier soit suffisamment présent, mais pas trop. Que la violence soit présente, parce que ça, c'est quand même ça qui suscite les intérêts, les passions, et même le désir d'acquérir le pouvoir, et donc, j'allais dire, une motivation pour diriger la communauté, et mettre son intelligence à son service, mais pas trop non plus. Vous voyez ? Il faut, alors de la virtu, on peut en avoir tant qu'on veut, mais, vous voyez, de courage et de la force, mais il faut que ça soit modéré, pas par une certaine, enfin, pas humilité, mais une certaine perception, vous voyez, de la... Il ne faut pas non plus vouloir dominer, absolument. Pas vouloir, vous voyez, forcer la fortuna. Il faut savoir l'utiliser. De la même manière qu'il faut savoir se servir de l'image. Vous voyez. J'ai dit, les deux éléments sur lesquels il faut jouer, et ils sont présents l'un dans l'autre, hein, c'est la fortuna et ce triangle. Parce que la fortuna, elle peut faire que tout d'un coup, l'ensemble de votre peuple se révolte du côté de la violence. À ce moment-là, il faut savoir jouer sur l'image. Vous voyez, c'est un jeu d'équilibre, si vous voulez. C'est un jeu d'équilibre. Il faut gérer un équilibre politique. En étant en plus capable de jouer un risque parce qu'il y a un élément d'indétermination. On est vraiment dans le jeu politique. Et Machiavel dirait, mais la finalité que vous vouliez, le bien commun et tout ça, ça c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire de vous un bon politicien. Parce que vous pouvez être un brave homme qui est persuadé du bienfait de la France et de la manière dont il faut. Si vous n'avez pas ça, vous n'y arriverez jamais. Vous voyez, c'est la condition sine qua non. Si vous n'avez pas ça, vous n'y arriverez pas. Donc ça ne sert à rien. C'est pas ça qui fait que vous êtes efficace. Vous voyez, donc ce qu'il travaille, c'est sur l'efficacité politique. Et l'efficacité, alors, j'allais dire, il est quand même, c'est quand même, on va voir, hein, c'est quand même intéressant, Machiavel. Alors, l'autre élément qui souligne après, qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'il y a une dialectique. Le peuple, si vous voulez, le prince ne peut pas suffire à gouverner le peuple. Il faut se servir des grands. Vous savez, c'est une grande distinction chez les Italiens, les petits et les grands. Saint Thomas sert de cette distinction, les Magnus et les Minus. Les frères Minus s'appelaient Minus à cause de ça. Les Magnus et les Minus. Et alors, il faut s'en servir des Magnus. Des grands, il faut savoir s'en servir. Pourquoi ? Parce que en sachant bien que le désir des grands, c'est de dominer. Le désir des petits, c'est de ne pas être dominé. Et donc l'art du prince, c'est précisément d'être l'instance qui permet que cette opposition positive entre ceux qui veulent dominer et ceux qui ne veulent pas être dominés ne sombre pas dans l'anarchie. Mais il faut s'en servir. Parce que le fait que les grands veuillent dominer, si vous en servez intelligemment, ça permet de maîtriser le peuple. Mais le fait que le peuple ne veuille pas être dominé, ça permet de faire peur aux grands quand ils commencent à prendre trop de pouvoir. Vous voyez, il faut savoir jouer avec le peuple quand les grands deviennent trop forts et jouer avec les grands quand le peuple devient trop fort. Ça, c'est le rôle du prince. Donc c'est très astucieux. Vous voyez, le prince, c'est pas le roi. Il est au cœur du jeu. C'est celui qui mène la danse, si vous voulez. Et donc, qui sait se servir de la dialectique, pas au sens hegelien, hein, mais vous voyez, de la dialectique des passions. Et c'est pour ça que la ruse est essentielle. C'est quelqu'un, j'allais dire, dans la qualité essentielle, même au cœur de la virtus, vous voyez, dans la virtus, il y a un don naturel, mais il y a en plus la ruse. Quand on joue, d'ailleurs, et tous les coups sont permis. Le tout, c'est que on arrive à conserver cet équilibre politique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas moral, vous voyez, mais Machiavel, pour Machiavel, le politique, c'est amoral, c'est pas immoral, c'est amoral. Ça n'a rien à voir avec le moral. L'aspect moral, c'est la vie privée. C'est pour ça que la religion, si vous voulez, elle n'est pas gênante du côté privé, mais du côté public, ça va bien. Si elle favorise cette lucidité, c'est très grave si elle en détourne. Donc si on commence à trop vous prêcher la vie éternelle, vous voyez, sur les places publiques, et que vous commencez à vous désintéresser la vie publique, vous voyez, ça démotive tout le monde, selon Machiavel. Mais si inversement, vous avez une religion qui vous motive, j'allais dire, de manière trop immédiate, vous voyez, qui fait que les enjeux religieux seraient trop liés à des choses matérielles, c'est l'inverse, vous allez provoquer l'affolement et la peur. Donc il faut, même chose, vous voyez, la religion elle-même, ça fait partie du jeu. Et Machiavel ne prétend pas d'ailleurs toucher à la légitimité, au point de vue personnel, ni de la vérité. Son problème, c'est ni la vérité, ni la bonté, vous voyez, ni l'aspect de la religion comme telle. Donc c'est intéressant, parce qu'il propose une politique qui est absolument séparée de l'éthique. Si ce n'est dans le service que l'éthique rend, vous voyez, comme image. C'est bon d'avoir quelques valeurs, si vous voulez. Machiavel est tout à fait pour les valeurs, Machiavel. Ça fait partie des images des valeurs. Le tout, c'est de savoir s'en servir, les retourner s'il faut. Et donc la dialectique entre ceux qui veulent dominer et ceux qui ne veulent pas être dominés, elle est dépassée, enfin, dans la personne du prince. C'est propre du prince de se représenter lui-même, on en a des exemples quand même splendides, vous voyez, de se représenter lui-même comme le dépassement de la dialectique. C'est grâce à lui qu'est dépassée cette opposition. Et avec la loi. Parce qu'il ne faut pas rêver. Le Machiavel sait aussi que le prince, il peut mourir du jour au lendemain, donc il faut aussi qu'il y ait la loi. Mais la loi doit être telle qu'elle permet cet équilibre. Il ne faut pas qu'elle le bloque. Mais il faut aussi qu'elle en soit garant. Donc, vous voyez. Je veux dire, la loi est régulatrice. Elle n'est pas normative. Vous voyez. C'est-à-dire que la loi ne dit pas ça c'est le bien, ça c'est le mal. En soi, par rapport au réel. La loi dit ça c'est le bien, ça c'est le mal par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Donc, voilà, la loi, elle est très incarnée dans la situation. Elle n'est pas en soi, la loi. Les lois en soi, c'est le domaine moral. Alors, je ne vous le développe pas, mais il faut savoir que, parce qu'on ne pourra pas tout faire, hein, Kant, Emmanuel Kant, a développé, c'est pas un machiavéliste, hein, mais à sa manière, a développé une philosophie politique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, j'allais dire, la philosophie politique commune, elle est très à la manière de Kant. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Quand il dit l'aspect moral, vous voyez, j'allais dire, c'est ni du domaine de la pensée rationnelle, encore moins du domaine du politique. Et le politique, il est proche de l'esthétique pour Kant. Vous voyez, l'esthétique, l'intelligence esthétique et l'intelligence politique, qui est d'ailleurs pour Kant le lieu où l'intelligence s'exerce vraiment, librement, où elle n'a pas de limite, sont parallèles l'un à l'autre. Un bon artiste, vous voyez, j'allais dire, il y a un lien entre un bon artiste et un bon politicien. Mais l'exercice de la pensée spéculative, comme elle est limitée, vous voyez, j'allais dire, encore une fois, au phénomène, qu'elle n'atteint pas le noumen, ben, fait que. Vous voyez, j'allais dire, c'est les limites de l'intelligence spéculative qui font que l'intelligence pratique est coupée du domaine de la morale. Alors, la morale, elle joue dans la politique, mais sous la forme des valeurs. Ça permet de réguler la politique. Il y a un mode de pensée extrêmement. C'est très, bon, Kant, j'ai dit, s'ignorait machiavéliste. Mais je pense qu'il y a, même si Kant est plus rigoureux, hein, c'est-à-dire que Machiavel, il est du côté du concret. Il est plus intellectuel, Kant. Mais c'est des pensées qui ne sont pas du tout séparées éloignées l'une de l'autre. C'est pour ça que Machiavel parlera de vérité effective. Ce qui est philosophiquement intrinsèquement contradictoire, mais vous voyez, c'est intéressant. De vérité effective. L'important, c'est la vérité effective. Donc, c'est le résultat obtenu. Vous voyez, c'est la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il s'agit que la vérité s'effectue. Alors, ce qui est intéressant, alors évidemment, c'est un côté effrayant, parce que vous voyez que la politique est réduite, encore une fois, au jeu. Hein, et la politique, l'exercice politique n'est vu que dans sa dimension de fonctionnement. Donc là, on rejoint d'une certaine manière. Mais, vous voyez, Occam, c'était la logique. Machiavel, c'est le jeu. Et le jeu, c'est logique. Mais dans le jeu, il y a la chance. Et c'est ça qui fait que Machiavel, d'une certaine manière, est plus proche de Nietzsche que de Kant. Parce que Kant, c'est la logique, vous voyez, il n'y a pas... l'intelligence de la ruse, ça, c'est typiquement nietzschéen. Alors, qu'est-ce qui est... Donc, le fait que ça soit une pensée politique qui ne la regarde que du côté du conditionnement, c'est tout à fait clair. Qui ne se pose pas la question de ce que c'est que l'activité politique, ni ce que c'est que le citoyen, il se regarde comment ça marche. Donc on est typique devant une pensée qui ne regarde que le conditionnement et qui choisit de ne regarder que lui. Le problème, c'est que comme il est du côté pratique, vous voyez, du côté spéculatif, je peux abstraire le conditionnement et la détermination en philosophie spéculative. Mais du côté pratique, je ne peux pas abstraire le conditionnement de la détermination. Aimer et la manière d'aimer, ça fait qu'un dans l'exercice, vous voyez, du côté de l'exercice. Et donc ce que révèle Machiavel, j'allais dire, à contrario, c'est que du côté de la philosophie politique, je peux ni être dans le spéculatif pur, ni dans le conditionnement pur. Vous voyez, c'est l'intérêt aussi. La leçon de Machiavel, c'est ça. Et que, donc la philosophie politique, c'est pas du côté des modèles que ça se joue. La philosophie politique, c'est comment agir du côté politique. C'est l'activité politique. Vous voyez, c'est ça que Machiavel, face à une pensée politique qui était extrêmement idéaliste, qui était néoplatonicienne, si vous voulez, qui vivait sur les modèles. On le reverra, que ce soit Hobbes, que ce soit à la même, Thomas More. Enfin, c'est une pensée du modèle. Vous voyez, c'est la cité idéale. Même Platon, mais même Aristote, à la fin de sa politique, hein, il propose un peu un modèle. Ce que montre Machiavel, et ça c'est intéressant, c'est que si vous voulez, la politique, elle est faite, la réflexion politique, elle est faite pour pouvoir être efficace dans le monde dans lequel on est. Ça c'est vrai. Donc il ne s'agit pas de penser un monde en soi, il s'agit de penser le réel comme il est. Donc il faut que le conditionnement soit intégré dans la réflexion de philosophie politique. Il ne s'agit pas de penser l'homme en soi, vous voyez. Pourquoi ? Parce que du côté éthique, je peux réfléchir sur ce qu'est l'homme, sur ce que c'est qu'aimer, parce que ça n'engage que moi. Donc une fois que je l'ai compris, j'ai plus qu'à le vivre. Et l'autre, vous voyez. On est deux, et c'est parce qu'on cherche ensemble la vérité sur ce que c'est que l'amour qu'on est capable de le vivre. Du côté politique, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce que vous comprenez bien la philosophie politique que vous allez pouvoir la mettre en œuvre. Vous pouvez avoir tout compris. Si vous n'êtes pas capable d'être suffisamment rusé pour le mettre en œuvre avec les gens que vous avez devant vous, vous n'y arriverez jamais. Mais ce n'est pas bête, ça. Et donc ça pose d'ailleurs, on le verra, le problème de savoir est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire une philosophie politique ? Ça, c'est une bonne question. Parce que la philosophie politique ne peut pas réfléchir, vous voyez, on va voir, elle a une réflexion sur ce qu'est... Elle s'appuie sur une réflexion sur l'homme, mais elle doit tenir compte du conditionnement, elle. C'est le lieu où la philosophie est obligée d'assumer le conditionnement. Et donc c'est le lieu, vous voyez, j'ai dit, où il y a la plus grande tension en philosophie entre une réflexion sur ce qu'est l'activité politique et la manière dont elle s'exerce, parce que l'activité politique, elle n'est, dans ce qu'elle est, n'est pas séparable de sa manière de s'exercer. Parce que vraiment, c'est une question d'exercice, oui. Chez Machiavel, c'est pas le problème, le bien commun. Le bien commun, c'est le fruit. C'est que le bien commun, c'est que ça soit équilibré. Tu vois ? C'est un résultat, le bien commun, pour lui. Donc, il se soucie pas. S'il faut qu'il y ait des gens qui meurent, s'il faut en tuer quelques-uns, ça n'a pas d'importance, ça. Le tout, c'est que l'équilibre soit tenu. Qu'on tord de la justice, pourvu que ça ne violente pas l'opinion au point qu'il se révolte, c'est pas gênant non plus. On peut diffuser quelque chose d'immoral pourvu que... Parce que si c'est dans une situation nécessaire, c'est pas gênant. Le tout, c'est de maintenir cet équilibre. Parce qu'il vaut mieux, dirait Machiavel, l'équilibre d'un régime qui prône en partie quelque chose de mauvais plutôt que le désordre d'un régime qui prône le bien. Il préfère qu'on soit des j'allais dire des... des pécheurs heureux que des bienheureux crevant la faim. Il est assez violent contre la vie religieuse. Ce qu'il dit, ça, c'est une race malfaisante. Parce que ces gens-là, ils prônent le détachement du monde, ils prônent la mendicité, ils prônent le pardon à autrui, et en plus, ils prétendent vivre en communauté comme ça. Ils sont dangereux, ces gens-là. Parce qu'ils sont témoins de quelque chose qui est intrinsèquement pervers pour le politique. Tu vois, puisqu'ils manifestent une manière de vivre qui, précisément, prétend être appuyée uniquement sur le bien. Ça va bien quand c'est que des pieux laïcs, parce qu'eux, ils n'ont pas la prétention de mettre en œuvre une communauté politique. Mais les religieux, ça, c'est plus dangereux. Même si, au fond, leur intention est magnifique, parce que leur intention, politiquement, c'est très intéressant. Même ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant politiquement, de montrer surtout qu'eux-mêmes ont été obligés de tenir compte de ça. Et qu'en fait, si on gratte un peu, ils sont aussi véreux que les autres, la seule chose, c'est qu'ils ont un discours idéaliste. Non, mais c'est intéressant, vous voyez, parce que quand on réfléchit sur ça, même au niveau du jugement prudentiel qu'on pose sur sa communauté, c'est pas commode. Vous voyez, on risque de passer du novicié à la profession simple, d'une vision de la communauté qui est parfaite, avec que des gens qui... Tout est beau, tout le monde... Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, il y a que des crapules dans la communauté. Quel est le regard juste? Donc, vous voyez, le problème, on en revient à ça, c'est que... et du coup, on ne peut plus obéir, d'ailleurs. Que la manière d'agir juste en philosophie politique est liée au réalisme que j'ai. Et c'est pas facile de savoir ce que je dois regarder. Vous voyez? Comment entrer dans le réalisme du regard au niveau politique? Je vous dis qu'il intègre à la fois le conditionnement, avec tous les fragilités que la lucidité sur le conditionnement implique, et qui en même temps ne quitte pas la détermination, ne se laisse pas submerger par la vision du conditionnement. Vous verrez, la leçon de Machiavel, c'est d'obliger au réalisme. Il n'est pas réaliste, parce que je dis, c'est un peu comme un psychologue qui n'a pas de regard humain. Il ne regarde que le fonctionnement. Mais au moins, ce qui l'oblige, c'est à ne pas s'en séparer. Oui, j'ai dit, de manière négative, Machiavel, apporte cette leçon. C'est qu'on ne peut pas être moins intelligent que lui. Donc, vous voyez, on ne peut pas refuser... Ce qu'il dit, la seule chose, c'est qu'effectivement... Alors, il y a un petit détail sur lequel on peut aussi très fortement quand même critiquer Machiavel, c'est que ce dont il n'est pas lucide, et nous, on peut le dire, puisque depuis, ça s'est effondré, c'est que ce qui tient complètement sa communauté, c'est quand même la morale et la religion. C'est que quand vous n'avez plus une morale commune, vous voyez, morale commune du côté personnel, donc quand vous n'avez plus une religion qui présentement prône le bien de manière cohérente, vous voyez, avec le mystère de l'Église et de la foi chrétienne derrière, vous ne pouvez pas faire fonctionner une communauté humaine. Donc Machiavel n'est pas lui-même suffisamment critique à l'égard de ces... Vous voyez, il y a encore, un bon sens qu'il présuppose et dont nous, on peut dire que même lui, il peut disparaître. Précisément quand il n'y a plus de dimension religieuse. Mais il n'est pas assez cynique. Mais effectivement, ça amène, vous voyez, quelqu'un qui étudie Machiavel de manière contemporaine, il est obligé d'être cynique. Et de se mettre à se demander, vous voyez, quel est le sens de tout ça. Parce que, ut in pluribus, présentement, ça ne fonctionne pas. Et les gens ne sont pas heureux. Plus exactement, les gens sont réellement malheureux. Parce que ce n'est pas gênant que les gens disent qu'ils soient malheureux, ça fait partie de ce que doit dire le peuple. Mais le tout, c'est qu'il y a quand même un minimum, vous voyez, Or, finalement, quand ce minimum n'existe plus, vous voyez, alors là, il y a une question que Machiavel n'a pas pu se poser, parce qu'il n'a pas été face à, vous voyez, à un monde laïque, athée. Donc, au fond, il n'a pas pu expérimenter la limite de son propre regard. Mais aujourd'hui, il l'expérimenterait. Oui.
L'histoire, il dégage des règles. Dans quelle mesure l'histoire peut aider la prudence
politique? Et dans ce sens-là. Dans ce sens-là.
La psychologie, etc.
C'est dans ce sens-là. Là, je crois que là, il a raison, si tu veux, c'est que c'est l'expérience des catastrophes qui éduque, du côté historique. Tu vois, je crois que Machiavel est comme ça. Il dira, il ne faut pas aller chercher dans l'histoire des modèles du côté positif. Par contre, l'histoire a rendu les hommes... lucide du côté de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'enseignement de l'histoire pour Machiavel, il est essentiellement négatif. Parce qu'il a ce sens, j'allais dire, de l'actualité, c'est-à-dire que ça se joue hic et nunc. C'est à chaque moment, il faut recommencer à jouer avec la situation dans laquelle on est. Donc effectivement, il n'a pas du tout une vision de l'histoire comme s'il allait avoir un progrès. Enfin, tu vois, comme si on tirait des leçons du passé, pour lui, c'est éviter les nouvelles catastrophes. Précisément, en essayant d'analyser, et là, il a une véritable analyse, hein, j'allais dire philosophique, même si elle ne cherche pas la sagesse, au fond, de la logique des accidents. C'est un psychologue et un archéologue de la catastrophe politique, vous voyez, qui est extrêmement intéressant.